WTO! His promise! Down, down, WTO!
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonsoir et bienvenue sur l'émission Le Grain de Sable d'Atacrone. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous n'aurons pas d'invité en chair et en os sur notre plateau. En effet, nous allons vous faire écouter une table ronde enregistrée par nos amis d'Attac Marseille lors d'une de leurs émissions de radio diffusée sur Radio Galère le 27 avril 2014. Le sujet en sera, à l'approche des prochaines élections européennes, les négociations pour le traité transatlantique, appelé soit TAFTA, en anglais pour Transatlantic Free Trade Agreement, ou TTIP pour Transatlantic Trade and Investment Partnership, ou tout simplement en français PTCI, Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement. Nous vous avons sélectionné plus particulièrement le dialogue entre Édouard Bercieux, haut-commissaire à la Commission européenne, en direct de Bruxelles, et Frédéric Vial, de Paris, membre du Conseil scientifique d'Attac France. Bonne écoute.
Édouard Bercieux qui nous a rejoint, allô?
Oui, bonjour.
Voilà, donc vous êtes là. Et sur l'autre téléphone, donc Frédéric Vial d'Attac France.
Bonjour.
Bonjour à vous. Voilà, bon, c'est parfait techniquement pour l'instant, tout va bien. Hein, nous avons tous nos interlocuteurs.
On va peut-être commencer par Édouard Bercieux.
Oui, bonjour.
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 Donc... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire hein,
une première définition,
première présentation alors. De ce projet et de ce traité.
Bon, vous avez hésité un petit peu sur le nom TAFTA, TTIP, etc. Moi, je l'appellerais simplement Partenariat Transatlantique. Le nom officiel, c'est Partenariat Transatlantique pour le commerce et l'investissement, mais c'est pas très important. Effectivement, TAFTA peut très bien convenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un accord commercial, un accord sur le commerce et sur l'investissement entre l'Europe et les États-Unis. Les négociations ont été lancées il y a un petit peu moins d'un an, au mois de juillet de l'année dernière. Par le président Obama et par le président Barroso et le président Van Rompuy au niveau européen, avec le soutien de l'ensemble des États membres de l'Union européenne et du Parlement européen. Il y a eu plusieurs semaines de négociations qui ont eu lieu jusqu'ici. Il y a eu quatre semaines de négociations. Il y en aura une cinquième au mois de mai. Et les négociations sont en cours, elles continuent, elles devraient être conclues dans les années qui viennent. Enfin, c'est pas pour l'immédiat, mais probablement d'ici la fin de l'année 2015, le début de l'année 2016. Évidemment, c'est un peu difficile à dire au stade actuel. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail maintenant
un peu
plus tard, mais. Donc c'est un accord de commerce et d'investissement, comme l'Union européenne en a avec plusieurs de ses partenaires. On a conclu récemment un accord de ce type-là avec la Corée du Sud. On a conclu récemment avec Singapour. On est sur le point de conclure avec le Canada. Et on a déjà des accords de ce type depuis longtemps avec le Mexique, avec l'Afrique du Sud, avec le Chili, avec la Suisse, la Norvège, tous les pays de voisinage de l'Union européenne. Ça représente à peu près 30% de nos échanges au niveau européen qui sont couverts par des accords de commerce de ce type-là. Et aujourd'hui, on a un programme de négociation avec les États-Unis, mais aussi avec le Japon et d'autres partenaires, qui est assez important et qui, en gros, qui ferait passer de 30% à 60% la part de notre commerce qui serait couvert par ces accords. Le but de ces accords, c'est de faciliter les échanges avec nos partenaires, donc en général d'éliminer les droits de douane de manière progressive, et d'éliminer les obstacles non tarifaires aux échanges, les complications douanières, certains doublons administratifs, des exigences administratives indues, et donc de faciliter les échanges et les investissements.
D'accord, mais on nous a souvent expliqué que les barrières douanières étaient là pour protéger un certain bien-être social aussi au sein de chaque nation, hein, et que c'est pour ça qu'il fallait pas tout libéraliser. Alors là, est-ce que vraiment la France, les États-Unis, est-ce que les conditions sociales en Europe sont les mêmes? D'ailleurs, elles sont pas partout les mêmes en Europe, et ça ne laisse pas de poser un certain nombre de problèmes. Mais avec les États-Unis. Est-ce qu'il y a un SMIC aux États-Unis, par exemple?
Oui, globalement, l'Europe est assez forte, en fait. Contrairement à l'idée qu'on a souvent en France, et qui n'est pas partagée dans le reste de l'Europe, d'ailleurs, l'Europe est assez forte dans la mondialisation, dans les échanges internationaux. On a un modèle social qui est évidemment plus avancé que la plupart de nos partenaires, mais qui est aussi une force. Il faut pas voir notre modèle social comme une faiblesse. On a des travailleurs en Europe qui sont extrêmement bien formés, qui sont très productifs, même s'ils sont mieux payés que dans la plupart de nos partenaires. Et globalement, l'Union européenne, elle a une part de marché dans les exportations mondiales qui est de près de 20% pour les produits manufacturés et de 25% pour les services. Et c'est une part de marché qui, malgré l'émergence de la Chine, du Brésil, de l'Inde, de beaucoup de nouveaux pays dans le commerce mondial, est resté relativement stable depuis 15 ans. Donc c'est une performance commerciale de l'Union européenne qui est assez remarquable, alors qu'au contraire, les États-Unis ont vu leur part de marché diminuer dans le commerce mondial. Donc on fait preuve d'une moindre compétitivité à l'échelle mondiale. Et si vous regardez le solde commercial...
C'est depuis qu'Obama a mis en place la sécurité sociale et qu'ils sont moins productifs.
Non, c'était surtout sur la première moitié des années 2000. C'est moins marqué sur la période récente, mais c'est surtout lié à l'émergence de la Chine, en fait. Et c'est normal aussi que la part de marché de grands pays industrialisés diminue à l'échelle mondiale, sachant qu'il y a de nouveaux partenaires et quand on parle de part de marché, on parle de part du gâteau, même le gâteau grossit, mais on parle de part du gâteau. Et donc c'est normal qu'il y ait une redistribution, donc c'est pas anormal, scandaleux que la part de marché des États-Unis ait diminué. Ce qui est remarquable, en revanche, c'est que l'Europe, de par sa force, notamment sur les produits haut de gamme, a réussi à maintenir, grosso modo, enfin, nos parts de marché ont un petit peu diminué, d'un point sur une dizaine d'années, mais a réussi à maintenir ses parts de marché, ce qui montre que simplement on est fort au niveau mondial. Et en grande partie, tout ça est lié à notre modèle social. Si vous regardez le solde commercial européen, bon, le solde commercial de français est négatif. On en parle assez en France, mais au niveau européen, si vous regardez l'ensemble des pays européens, on a un solde commercial qui est positif pour l'ensemble des biens et des services, malgré une facture énergétique qui est énorme, qui est de 300 milliards d'euros. Mais on a un solde commercial qui, dans l'industrie, compense plus que largement la facture énergétique. On a 360 milliards d'excédent commercial sur les produits industriels et on a plus de 100 milliards d'excédent commercial sur les services.
D'accord. Mais
donc on ne doit pas partir perdant dans ce genre de discussion. Il y a un défaitisme ambiant, notamment en France. Moi, je suis le premier, en tant que Français, je suis le premier à le regretter, qu'on ne voit pas dans les autres pays européens. Il faut être vigilant, il faut défendre nos intérêts avec vigueur. Tout ça, c'est des négociations. Avec les États-Unis, c'est une négociation. C'est pas un mariage. On n'est pas là pour s'embrasser sur la bouche. Mais il faut pas partir perdant.
J'ai remarqué en tous les cas dans la première partie de la réponse qui a été donnée par M. Boursieux qu'il est question d'un accord de commerce essentiellement. Moi, je dirais qu'il est effectivement beaucoup plus question d'un accord de libre-échange. La différence est quand même tout à fait notable. Il s'agit d'un certain type d'accords qui ont été effectivement décrits. Il y a Corée du Sud, Singapour, Canada et maintenant États-Unis, qui visent en fait non pas tant à développer le commerce comme c'est présenté, mais beaucoup plus à atteindre les réglementations internes des États qui seraient des obstacles techniques ou autres au commerce. C'est-à-dire que l'obsession de ce type d'accord, c'est pas seulement l'obsession, c'est l'objectif unique de ce type d'accord, c'est la libéralisation des échanges, c'est-à-dire le fait de mettre en concurrence tous les opérateurs de commerce. Et cette libéralisation doit intervenir ou ne peut intervenir pour les promoteurs de cet accord que si il y a la capacité d'abaisser, de détruire un certain nombre de réglementations internes des États qui sont analysées comme des obstacles au commerce. Et c'est au nom de cela que on doit craindre, c'est pas qu'on peut craindre, c'est qu'on doit craindre que toute une foule de décisions politiques, de décisions publiques qui correspondent à notre modèle intérieur, c'est-à-dire les choix publics que nous avons faits en matière sociale, environnementale et autres, soit directement remise en cause, non pas par le débat public, mais par les entreprises elles-mêmes. Et on est dans ces accords, donne en fait des privilèges absolument hallucinants, ahurissants aux entreprises. Ce type d'accord est une attaque massive, il n'y a pas d'autre mot, une attaque massive contre les principes fondamentaux de la démocratie. Au nom d'une espèce de supposée croissance, d'ailleurs, ou demeurance, tout ça est absolument aussi inadmissible, une supposée croissance qu'on nous promet en 2027, enfin, c'est des chiffres assez ridicules, voilà pourquoi la démocratie serait mise par terre.
Alors je redonne la parole à M. Bourcieux, c'est à vous.
Merci. Pour rebondir sur le tout dernier commentaire, sur la question importante qui est de savoir si ce type d'accord est complètement anti-démocratique et vise à détruire ou même abaisser les réglementations internes. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est absolument pas le cas, ni dans l'intention des négociateurs. Si vous regardez le mandat de négociation pour le partenariat transatlantique qui est maintenant partout sur Internet, vous verrez que c'est absolument pas ce qui est recherché. Et c'est certainement pas le cas dans ce dont on discute concrètement dans les négociations et dans les accords qu'on a conclus jusqu'ici. Au contraire, on a des dispositions qui sont très explicites dans les accords sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de diminution de la protection sociale, de la protection de l'environnement suite à ces accords.
Monsieur Vial, avec Attaque Paris. Donc, Christine, oui.
Monsieur Bourcieux dit que, contrairement à ce que vous avez dit, dans l'accord, il y a un chapitre qui parle de protection sociale et qui parle d'environnement, et que il est dit que après la signature de l'accord, on n'aurait pas le droit de baisser les normes environnementales et sociales de chaque côté. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cette affirmation. Et si vous pouvez nous donner des exemples de ce qui pourrait arriver.
C'est-à-dire que effectivement, il y a ce type de disposition qui serait prévue dans l'accord, pour autant qu'on en soit informé, puisque ça c'est aussi un aspect qu'on verra sans doute l'opacité des négociations et du mandat. Mais effectivement, pour autant qu'on en soit informé, il y a ce type de disposition dans le mandat qu'a reçu la Commission. À la différence près qu'il y a aussi tous les moyens d'organiser pour faire en sorte que ces dispositions protecteurs soient vidées de leur sens, c'est-à-dire n'aient aucune portée pratique. Et le moyen est organisé très simplement en ce que le principe qui serait mis en œuvre serait celui de la reconnaissance mutuelle des normes, par exemple. C'est-à-dire que l'idée est simple, ce qui se fait d'un côté de l'Atlantique doit pouvoir se faire de l'autre côté de l'Atlantique, sinon on serait dans des mesures distorsives ou discriminatoires au commerce. À partir du moment où d'un côté de l'Atlantique, en l'occurrence, on peut piquer du bœuf aux hormones, on peut mettre de la lactopamine dans les cochons, on peut cultiver, exporter et gaver les animaux et gens d'OGM, par exemple, ou faire du gaz de schiste, alors il devrait être possible de faire la même chose. À partir de là, effectivement, tous les articles qui nous disent d'une manière totalement hypocrite que les normes sociales, les normes environnementales seraient protégées, cela se révélerait uniquement être des chiffons de papier. La réalité serait que, sur le principe de reconnaissance des normes, du fait du principe de reconnaissance des normes, eh bien, ce qui se fait d'un côté se fera de l'autre. Et puis, il faut ajouter à ça aussi d'autres mécanismes qui sont prévus dans les négociations, encore une fois, pour autant qu'on en soit informé, c'est-à-dire extrêmement peu. Le mécanisme de règlement des différends investisseurs-État, le mécanisme de coopération réglementaire qui permettrait aux entreprises un peu de faire la pluie et le beau temps, de faire la loi, de décider finalement ce qu'elles voudraient comme réglementation et ce qu'elles ne voudraient pas comme réglementation. Donc oui, il peut y avoir tout un tas de dispositions qui seraient uniquement des dispositions théoriques. Et ce ne serait pas tout à fait la première fois que dans des traités iniques, on trouverait ce genre de dispositif lénifiant qui n'a aucune portée.
C'est donc le moins-disant qui se retrouverait celui qui aurait raison par rapport à l'autre.
Bah, nécessairement, dans la mesure où le principe, c'est la libéralisation, c'est-à-dire la mise en concurrence. Premièrement. Deuxièmement, on est ensuite...
Pas en respectant les règles du jeu et pas en allant plus haut, mieux. C'est un peu ce que je reprochais un peu à M. Bourcieux de ne pas expliquer tout à l'heure.
Bah, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir l'expliquer dans la mesure où ce n'est pas possible. Dans la mesure où on est sur le principe de reconnaissance mutuelle des normes...
Non, mais quand on parle d'harmonisation, en général, c'est l'harmonisation vers en haut.
Ah bon ?
Enfin, normalement.
Eh ben non. Et pourquoi ce serait l'harmonisation vers le haut ?
Parce que c'est ce qui est souhaitable pour le bien-être de l'humanité, non ?
Ah oui, il y a ce qui est souhaitable et il y a ce qui est dans les tuyaux. Évidemment, c'est souhaitable l'harmonisation, mais l'harmonisation vers le haut. Mais là, il s'agit d'une harmonisation des normes nécessairement vers le bas, dans la mesure où, avec le principe de reconnaissance mutuelle des normes, ce qui se fait de plus bas d'un côté devra pouvoir se faire aussi de l'autre. Et si de l'autre côté, il y a des normes plus hautes, eh bien, il va bien falloir qu'elles s'alignent. Comment faire autrement ?
On peut faire autrement, non ?
À condition, si on fait autrement, à condition d'explicitement dire qu'on fait autrement, c'est-à-dire de mettre en place un mécanisme qui dise on va augmenter les normes, et augmenter les normes, ça veut dire, par exemple, avoir un contrôle a priori sur la nocivité des produits. Il se trouve qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas un contrôle a priori sur la nocivité des produits. Ce qui se fait d'un côté devant se faire de l'autre, eh bien, ce qui se fait par exemple aux États-Unis et qui aboutit à l'industrialisation et l'empoisonnement des assiettes, hein, par les OGM, par les pesticides, par tout ça, devra se faire de l'autre côté. Mais aussi, j'ai donné des exemples États-Unis-Europe, mais on peut donner des exemples Europe-États-Unis. Les réglementations bancaires, par exemple, qui sont extrêmement laxistes, enfin plus laxistes en Europe qu'aux États-Unis, vont nécessairement amener à ce que les réglementations des États-Unis, les réglementations bancaires, soient abaissées, parce qu'il y aura des banques européennes qui vont poursuivre les États, parce que les réglementations des États-Unis seraient trop hautes. Donc on n'en sort pas et nécessairement ce type d'accord entraîne une course vers le fond.
On revient sur cette discussion. Cette émission a pour thème le grand marché transatlantique, vous l'avez compris, avec Édouard Bourcieux, donc fonctionnaire européen depuis Bruxelles, avec Frédéric Vial depuis Paris, qui lui est d'Attac France. À vous, monsieur Bourcieux.
Merci.
aussi, ouais, effectivement, c'est un peu difficile d'être au téléphone
pour
intervenir, mais je vous remercie de me redonner la parole.
Pas de problème.
Alors, il y avait pas mal de thèmes qui ont été abordés. Je les reprends rapidement avant de répondre, puis peut-être comme ça on peut voir aussi ce dont on veut parler maintenant, ce dont on parle plus tard. Il y avait la question de la reconnaissance mutuelle de Frédéric Vial, la question du manque d'information, de pourquoi les négociations sont secrètes, etc. La question du règlement des différends entre les investisseurs et les États.
D'accord.
Alors sur la reconnaissance mutuelle, j'ai bien entendu ce que disait Frédéric Vial. D'abord, sur les dispositions sociales et environnementales, quand il dit que tout ça disparaît complètement et balayé par ce qui se passe au niveau de la reconnaissance mutuelle, là, je suis pas d'accord. Les dispositions sociales et environnementales qui sont dans l'accord, elles sont juridiquement contraignantes. Hein. Elles sont dans l'accord, elles ont leur légitimité et leur force juridique comme le reste, à égalité avec le reste. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'elles sont simplement balayées comme ça. Maintenant, pour revenir à la reconnaissance...
Il s'agit de respecter les normes de chaque côté. Si par exemple, bon, en France, on veut pas d'OGM, le gouvernement le dit, est-ce que ça peut être maintenu ou est-ce que ça peut être attaqué?
Ouais. Alors ça, j'y viens. Ça, c'était lié à la question de la reconnaissance mutuelle évoquée par Frédéric Vial, qui parlait des hormones, qui parlait des OGM, qui parlait du gaz de schiste. Là. Franchement, les choses sont très très claires et encore une fois, vous pouvez reprendre le mandat là-dessus. Et Nicole Bric, par exemple, l'a dit très clairement à l'Assemblée nationale avant l'adoption du mandat, alors même qu'on était dans un bras de fer sur les questions audiovisuelles, qui avait rien de sympathique avec le gouvernement français. Elle a dit qu'elle défendrait jusqu'au bout la question de l'exception culturelle dans le mandat et elle a obtenu gain de cause. Mais elle a dit en même temps, devant l'Assemblée nationale, que sur tout le reste, sur la question des hormones, sur la question des OGM, sur les préférences collectives en général, le mandat était très clair, et sur le fait qu'il s'agissait en aucun cas de remettre en cause ces éléments-là. Et ça, vous pouvez aller le vérifier dans le mandat, et les Américains le savent. Le mandat d'ailleurs maintenant a fuité, ils ont eu amplement l'occasion de le voir, ils savent quelles sont nos lignes rouges là-dessus. On les avait d'ailleurs exprimés dans des discussions préliminaires avec les Américains. Ils font aucune illusion là-dessus. Il n'est pas question d'importer du veau aux hormones ou il n'est pas question de changer notre réglementation sur les OGM. Et d'ailleurs, pour changer notre réglementation sur les OGM, il faudrait retourner devant le Parlement européen, il faudrait retourner devant les États membres et ça ne se ferait pas comme ça. 3200 accords bilatéraux sur l'investissement aujourd'hui dans le monde. 1400 qui ont été signés par les États membres de l'Union européenne. Donc c'est des choses qui existent. Le système de règlement des différends entre investisseurs et États, c'est pas le partenariat transatlantique qui est en train de l'inventer. C'est des choses qui existent depuis longtemps, depuis 50 ans. La France est membre du CIRDI, le principal tribunal en question auprès de la Banque mondiale, depuis 1965. Donc c'est pas tout d'un coup, il y a des choses qui apparaissent, etc. Mais ce qui est juste, d'abord c'est que il y a des préoccupations légitimes. Tout ce que vous évoquez sur les attaques possibles, la remise en question de nos droits sociaux, environnementaux, etc., c'est des préoccupations plus que légitimes et qui, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, nous préoccupent encore plus au niveau européen, au niveau de la Commission, parce que c'est nous qui les faisons, ces réglementations, donc on n'a pas envie d'être condamnés pour ça. Mais ce qui est vrai aussi, donc, c'est que sur ces 3200 accords au niveau mondial, dans 1400 signé par les États membres de l'Union européenne, jusqu'ici, dans le passé, ils n'étaient pas assez clairs. Sur la notion d'expropriation indirecte, sur la notion de traitement juste et équitable, il n'y avait pas assez de clarté sur ce qui était condamnable, c'est-à-dire l'arbitraire, le déni de justice, comme je le disais tout à l'heure, et ce qui, en revanche, était absolument intouchable, c'est-à-dire le fait de légiférer pour le bien public sur des questions comme les questions sociales, environnementales ou autres. Tout l'enjeu, justement, c'est d'apporter toutes les garanties nécessaires, le zéro risque là-dessus, dans la négociation en cours. Et c'est pour ça qu'on a lancé une consultation.
Frédéric Vial, donc depuis Paris, côté de M. Boursieux, on nous assure que toutes les garanties sont prises en matière d'environnement, que de santé, que sur l'ensemble des problématiques qu'on a pu soulever et qui nous paraissaient inquiétantes.
Alors moi, je voudrais simplement, pour répondre à ça, rappeler les paroles du regretté Charles Pasqua, qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est peut-être ma formation de juriste qui me commande de dire ça, mais je me contente de lire les textes qui le texte du mandat qu'a reçu le commissaire européen pour négocier, et les choses sont extrêmement claires dans ce texte-là. Le reste, c'est-à-dire quand on nous dit qu'il y a des garanties dans les négociations, etc., ce sont des paroles verbales. On a des déclarations ministérielles. Les déclarations ministérielles n'ont strictement aucun poids de contrainte juridique. Elles n'ont aucun effet. Elles ne sont faites que pour le débat public qui, par définition, va s'envoler. Au moment où les arbitres seront appelés à régler des conflits, c'est-à-dire des personnes privées, des avocats non soumis aux règles de déontologie normales, seront appelés à régler des conflits concernant des réglementations de protection de l'environnement et autres, eh bien, ils s'appuieront uniquement sur les textes qui institueraient, si jamais on arrive au bout, qu'institue le traité, c'est-à-dire des textes qui disent reconnaissance mutuelle des normes, traitement national, concurrence de tous contre tous, et à partir de là, ils feront sauter les unes après les autres les moratoires, les dérogations et autres garanties verbales qu'auront en leur temps donné les ministres. Et les ministres ou n'importe qui d'autre. C'est-à-dire que c'est bien gentil de nous dire qu'il y a des garanties, sauf que quand on demande lesquelles, quelles précisions exactement apportées, on n'a jamais strictement aucune réponse. Ce que l'on sait, c'est qu'on a une commission qui a l'oreille des lobbies. Je veux dire par là que les lobbies sont à la Commission et dans les institutions de l'Union européenne, les lobbies d'affaires sont exactement comme chez eux. Et tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est une Commission qui est au garde à vous, le petit doigt sur la couture du pantalon pour satisfaire aux demandes et aux exigences du monde des affaires. Alors ensuite, derrière, on nous envoie un petit peu de paroles lénifiantes pour essayer de nous anesthésier, mais malheureusement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Effectivement, il suffit de regarder comment les choses se passent depuis 20 ans à l'ALENA, comment les choses se passent également dans les différentes décisions concernant les organes d'arbitrage pour ne pas s'en laisser compter. Voilà, moi je regarde les textes, je vois ce qui s'y trouve, et ce qui s'y trouve amènerait à ce que les unes derrière les autres, les réglementations protectrices des populations seraient considérées comme distorsives au commerce, discriminatoires, des obstacles techniques indus. La notion d'expropriation indirecte, par exemple, qui a été évoquée, je crois, tout à l'heure, est une notion d'un flou absolument considérable qui permet tous les abus et toutes les interprétations, et on va nous dire qu'à partir de là, il y a des garanties. Il n'y en a aucune. Donc il faut arrêter de prendre les gens, je crois, pour des imbéciles avec des discours lénifiants. De la même manière, la consultation qui est menée actuellement par la Commission sur le mécanisme investisseur-État, c'est carrément se moquer du monde également, ce type de consultation, ce document imbuvable, illisible, sur lequel on demande aux gens de donner des avis dont on ne sait pas si la Commission va les mettre à la poubelle. Enfin, c'est véritablement une manière de fonctionner et d'essayer d'endormir le monde par des discours lénifiants qui n'a aucune chance de convaincre.
Quels sont les mécanismes légaux? Qu'est-ce qui existe? Pourquoi est-ce que ça a été instauré, ce mode juridique?
En fait, ce qui est prévu dans le traité, c'est la mise en place de mécanismes investisseurs-État, c'est-à-dire la possibilité pour des entreprises, dit des investisseurs, quoi, de poursuivre de poursuivre des États parce qu'ils auraient pris une réglementation qui serait contraire au traité, ou plus exactement des réglementations qui pourraient constituer des expropriations directes ou indirectes des entreprises. Et le souci, c'est pas tellement que cette possibilité existe, parce qu'elle existe déjà, je veux dire déjà, les entreprises peuvent aller devant des juges pour quand elles ne sont pas d'accord sur un certain nombre de réglementations qui leur sont, de décisions publiques qui leur sont opposées. Là, le problème, entre autres, c'est que ça se passerait devant des arbitres internationaux, c'est-à-dire des avocats qui ne sont tenus à aucune règle de déontologie, notamment pas de conflit d'intérêts, qui ne sont pas tenus à la publicité des débats, et qui pourraient décider sur des critères qui seraient uniquement ceux fixés par les traités, de faire condamner des États pour des réglementations décidées démocratiquement et en dehors de toute règle légale instaurée par les parlements, par ce genre de choses visiblement un petit peu ringarde qui s'appelle la démocratie, ringarde du point de vue de ce type de traité. Alors, on sait déjà ce que ça veut dire, hein. On a déjà des foules d'exemples, hein, dans le cadre de l'ALENA, dans le cadre des accords bilatéraux sur l'investissement. Vous avez déjà donné quelques exemples, il y en a d'autres. Vous avez parlé de Landpine qui réclame 250 millions de dollars. Il y a aussi l'Équateur qui a été condamné pour avoir nationalisé son pétrole. Il y a la Slovaquie qui a été condamnée pour avoir nationalisé son système de... renationalisé ses structures de santé. Il y a beaucoup d'exemples comme cela qui aboutissent à ce que les entreprises décident finalement du périmètre de l'action publique, ce qui est massivement contre les principes démocratiques fondamentaux.
Mais qui sont ces cours qui décident ça, qui les afférennent, et bon, quel est leur pouvoir?
Alors en fait, vous avez plusieurs cours arbitrales qui existent, qui ne sont pas vraiment des tribunaux. Il y a par exemple l'UNICITREL qui a été créé dans le cadre des Nations Unies. Il y a par exemple le CIRDI qui a été créé dans le cadre de la Banque mondiale. C'est aussi la Chambre de commerce de Stockholm, c'est la Chambre de commerce des États-Unis. Et voilà, elles sont simplement ces cours arbitrales reconnues par les traités qui donnent le pouvoir à quelques avocats, en général trois, de décider d'amendes contre des États. Donc ceux qui les afférennent, ces cours, ce sont les traités qui les instituent.
Il y a un autre dispositif aussi dont on parle dans ce traité, la coopération réglementaire, hein, une espèce de contrôle. Bon, on a déjà le contrôle de légalité pour les décisions des communes, hein, par les préfectures. On a le contrôle de constitutionnalité des lois, hein, au niveau de l'État et des parlements. Et là, alors, il y aurait une espèce de contrôle de libre commercialité qui serait mis en place. Pour que, a priori, avant que des lois, des règles ou des mesures ne soient prises, on regarde d'abord si elles sont compatibles avec le libre commerce érigé en règle de vie.
Oui, mais c'est exactement ça, hein. Donc, c'est ce que vous avez dit, c'est un système d'alerte précoce qui vaudrait pour les réglementations à venir. Si un État, un jour, veut, dans l'avenir, prendre une mesure protectrice de l'investissement, eh bien, à ce moment-là, il faudra qu'il en avertisse au préalable l'autre partie prenante qui demandera leur avis aux lobbies d'affaires, qui évidemment donneront leur avis, hein, puisqu'on leur demandera, et qui ensuite pourront dire, bah, ça, je veux bien cette réglementation, mais ça, je veux pas. Et si jamais vous persistez, eh bien, ensuite, on ira vous chercher avec le mécanisme de règlement investisseur-État. Donc c'est véritablement quelque chose qui est un accord qui en plus donne des allures d'irréversibilité, ce qui, y compris sur le plan démocratique, est encore une atteinte supplémentaire.
Nous vous proposons une petite pause musicale avec Lisa Leblanc, « Je suis pas un cow-boy ».
Je suis pas un cow-boy, mais j'aime ce prétendre que je suis. Thank you. j'ai pogné à Saint-Tite.
Monsieur Boursieux, là, vous avez été copieusement interpellé. Qu'est-ce que vous dites de tout ça?
Oui, merci. Ça fait un moment que j'avais envie de répondre. Bon, je reprends un peu les différents points, notamment évoqués par Frédéric Vial. Je n'ai pas forcément toujours tout saisi parce que j'écoute en même temps sur Internet et c'est très décalé. Alors, d'abord sur le mandat. Quand il dit... Le mandat, c'est bien beau, mais c'est des déclarations politiques, des ministres, etc. Et ce qui compte, c'est les textes. C'est vrai que ce qui compte, c'est les textes, à la fin. C'est ça, l'accord. L'accord, c'est les textes. Mais le mandat, c'est ce qui va déterminer les textes. Pour nous, c'est la Bible. Les objectifs de négociation et les lignes rouges au-delà desquelles on ne pourra pas aller. Si on va au-delà de ces lignes rouges, il n'y aura pas d'accord. Les États membres diront non, parce que les États membres se sont mis d'accord sur un mandat. Les États membres diront non, et le Parlement dira non. Le Parlement, même chose, il a voté une résolution l'année dernière, qui dit qu'il est en faveur d'un accord avec les États-Unis, mais qui dit très clairement ce qu'il veut dans cet accord, ce qu'il ne veut pas dans cet accord. Et notamment, toutes les questions démocratiques que vous évoquez, elles sont très clairement dans la résolution du Parlement. Si ce n'est pas dans l'accord, le Parlement votera contre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il l'a déjà fait sur l'ACTA, vous connaissez sûrement, un accord sur la propriété intellectuelle. Le Parlement n'a pas été d'accord, il a voté contre, il n'y a pas eu d'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le mandat, on le prend sérieusement. Et donc tout ce que vous pouvez voir dans le mandat, et vous avez reconnu que c'était des choses qui étaient censées, qui défendaient l'environnement, la santé, les droits sociaux, tout ça, pour nous, c'est la Bible. Et on s'efforcera de négocier ça. S'il n'y a pas d'accord avec les États-Unis sur ces questions-là, il n'y aura pas d'accord du tout. Le premier point, c'était le mandat. Le deuxième point, donc, c'est la question des tribunaux, encore une fois, du règlement des différends entre... les investisseurs et les États. Comme l'a dit très justement Frédéric Vial, ces tribunaux, ils vont se fonder sur des textes. ils vont pas non plus inventer tout et n'importe quoi. Hein. Ils auront le texte de l'accord devant eux, et s'il y a un procès sur un sujet quelconque, ils devront juger en fonction de ce que dit le texte. Donc, si vous voulez savoir quelles sont les garanties qui sont données, il faut aller voir le texte. Bon, le texte, évidemment, il reste encore à négocier avec les États-Unis, mais c'est précisément l'objet de la consultation qu'on a lancée il y a un mois. Et c'est une consultation, je suis désolé, peut-être que vous la considérez comme abusable, c'est une consultation qui est sérieuse. Il ne s'agit pas de dire non, il s'agit de... Mais non, mais c'est une consultation qui va dans le détail, et le diable est dans les détails. Il faut aller voir dans le détail. Le concept d'expropriation indirecte dont parlait Frédéric Vial, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un concept qui, s'il n'est pas parfaitement précisé, peut être dangereux. Dans le cadre de l'ANA, il est dangereux. Il peut être dangereux, mais c'est un concept qui doit exister. Parce que l'expropriation, elle peut être soit directe, un État qui va dire à une entreprise, bon, je saisis tous vos biens et je vous compense pas pour ça. Bon, ben ça, c'est assez clair, y a une compensation qui peut être exigée, c'est logique. Mais elle peut aussi être indirecte. Par exemple, si le même État a dit, je vous retire la licence qui vous permet de produire ce que vous faites, le résultat est exactement le même. Si c'est quelque chose de complètement arbitraire, de complètement discriminatoire contre une entreprise en particulier, et pas quelque chose qui est fait pour des raisons d'intérêt public. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'expropriation indirecte, c'est quelque chose qu'il faut considérer, mais ce qui est absolument crucial, c'est de préciser ce que ça veut dire exactement. Et de préciser très clairement dans les textes, et c'est ce qu'on propose de faire, et si vous prenez la peine d'aller voir la consultation, c'est exactement ce qui est écrit noir sur blanc dans la consultation, c'est de préciser explicitement que l'État a parfaitement le droit, et encore une fois, la commission est régulateur, le législateur, on n'a pas envie de se faire prendre l'année pour rien, qu'un État a parfaitement le droit de prendre des dispositions de ce type-là, comme vous disiez, ou sur la collaboration pour l'intérêt public. Et que ça ne peut pas être condamné. Et que le seul fait qu'une entreprise voit ses profits diminuer n'est pas une raison valide pour qu'un État puisse être condamné. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est noir sur blanc ce qu'on veut. Et c'est tout l'objet de la consultation, de s'assurer que toutes les garanties sont bien là dans ce qu'on va négocier.
Monsieur Vial.
Alors la question se pose immédiatement de savoir qui les obligera. C'est-à-dire que on peut compter que un juge le fasse, c'est-à-dire un juge qui applique les principes de droit des pays ou du tribunal qui l'institue. Un arbitrage n'est pas du tout tenu à ce genre de choses. Il est seulement tenu à appliquer les principes dans le traité et rien d'autre. À partir de là, on peut constater, puisque ce sont toujours dans ce sens-là que va la jurisprudence arbitrale dans ce type de domaine, qu'elle va systématiquement dans le sens des critères fixés par le traité. C'est normal. Moi, je ferai remarquer une chose. Enfin, j'appelle votre attention sur une chose. C'est que déjà, il existe un système de droit. Il existe des systèmes de droit qui sont des systèmes performants. Aujourd'hui, dans le droit tel qu'il existe effectivement, il y a la possibilité pour les entreprises de se défendre de mesures qui seraient arbitraires, qui seraient des mesures, par exemple, d'expropriation indirecte. Et dans notre droit français, nous avons un article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie du bloc de constitutionnalité, qui dit qu'en cas d'expropriation, eh bien, la personne expropriée sera indemnisée. C'est marqué à condition d'une juste et préalable indemnité. Donc, déjà, les systèmes de droit protègent les personnes. Nous sommes dans des états de droit. Nous sommes dans des états de droit efficaces. Il n'y a strictement aucune raison qu'il y ait une espèce de privilège, c'est-à-dire un droit supplémentaire, un droit privé, d'une certaine façon, accordé aux entreprises pour qu'ils puissent attaquer les États en dehors même de tout système judiciaire. Voilà, c'est ça le souci considérable de ce genre de mécanisme, c'est d'instaurer une espèce d'extraterritorialité du droit, d'instaurer profondément un privilège en faveur, c'est-à-dire une loi privée, c'est le terme exact de privilège, en faveur des entreprises.
Voilà, Monsieur Boursieux, c'est à vous.
Oui.
Et on en est donc au temps de la conclusion, en ce qui vous concerne.
Oui, enfin, de la réponse aux points qui ont été évoqués, parce qu'il y a plein de points sur lesquels je pense que c'est très important de répondre. D'abord, la question des juges, des arbitres. Comme l'a dit M. Vial, ils doivent s'en tenir au texte. L'important, c'est ce qu'il y a dans les textes, et j'ai déjà expliqué ce qu'on allait négocier dans ces textes. Maintenant, sur les garanties procédurales, il a dit qu'il n'y avait pas de règles de déontologie pour ces arbitres, qu'il n'y avait pas de règles sur les conflits d'intérêts, qu'il n'y avait pas de publication des débats. C'est vrai, dans une large mesure, pour la plupart des accords bilatéraux sur l'investissement qui existent jusqu'ici, notamment pour l'ALENA. C'est complètement vrai. C'est pas le cas, encore une fois, de ce qu'on veut négocier avec les États-Unis ou de ce qu'on a négocié avec le Canada. Et on a mis le texte du Canada sur la table, chacun peut aller vérifier. Conflit d'intérêts, il y a des dispositions explicites pour interdire les conflits d'intérêts pour ces arbitres. Et il y a maintenant un accord même à la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international là-dessus. Et c'est repris dans l'accord avec le Canada et à l'avenir avec les États-Unis, des dispositions explicites contre le conflit d'intérêts. Publication des débats, même chose, des dispositions explicites, on y tient énormément, pour la publication des débats. Et au-delà de ça, pour permettre aux ONG, ou à toute partie intéressée, de soumettre des commentaires aux arbitres, pour la défense de l'environnement ou pour tout autre sujet d'intérêt général. Il est tout à fait juste que on a dans le droit français, dans notre bloc de constitutionnalité, la Déclaration des droits de l'homme et l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme auquel je faisais référence tout à l'heure, qui dit que nul ne peut être privé arbitrairement de sa propriété. Et d'une certaine manière, pour un investisseur américain, la négociation en cours là-dessus, elle n'apporte rien de plus que ce qui est dans notre bloc de constitutionnalité, ce qui est défendable devant les tribunaux français. Ça, c'est tout à fait juste. Le problème, c'est que c'est pas le cas aux États-Unis. Les choses marchent pas de la même manière en Europe et aux États-Unis. En Europe, on a la Déclaration des droits de l'homme qui est dans notre Constitution. On a aussi une disposition qui fait que toute entreprise étrangère, aujourd'hui, qui a investi en Europe, est considérée comme une entreprise nationale, donc elle peut se défendre normalement devant les tribunaux. C'est pas le cas aux États-Unis. Et ce qu'il y a dans l'accord, c'est pas directement exécutoire devant un tribunal américain. Donc il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette de faire appliquer l'accord de notre côté, pour l'intérêt des Européens. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, moi, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que c'est un accord qui est très important. Les États-Unis, c'est notre premier partenaire commercial. On échange 2 milliards de biens et de services tous les jours avec les États-Unis. Et donc, si on facilite les échanges entre l'Europe et les États-Unis, ça contribuera à la croissance plus que si on le fait avec un tout petit partenaire. Cet accord, soyons francs entre nous, ça va pas être la fin de tous les maux du monde. Ça va pas être la solution miracle. Ceux qui disent ça sont des menteurs. En même temps, c'est pas un accord qui va changer la face de l'humanité, qui va faire qu'on se met à manger tout et n'importe quoi. Qui va faire qu'on n'a plus aucune liberté, ça reste un accord technique, un accord commercial, qui de manière pragmatique peut apporter à la croissance. Et personnellement, je crois qu'aujourd'hui, l'Europe a quand même besoin de croissance, de plus de croissance et de plus d'emplois. Ça peut apporter, prenons-le, tout ça sans creuser les déficits. Alors, peut-être que c'est pas quelque chose qui est très important non plus, mais c'est une solution pragmatique. Prenons-la, voilà, point. Après, c'est très important, effectivement, de s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. On a beaucoup à gagner, encore une fois, de notre côté. L'Europe est forte, elle n'a rien à craindre, mais il faut être vigilant, il faut négocier âprement avec les États-Unis. C'est pas un partenaire facile, c'est pas un partenaire qui a l'habitude de vraiment négocier avec les autres partenaires. Et pour une fois, il est en face d'un partenaire de taille équivalente, si ce n'est plus grand que lui, l'Union européenne, qui est la première puissance commerciale mondiale. Donc soyons vigilants, soyons durs avec les États-Unis, mais le prenons ce qu'il y a à prendre.
D'accord. Bien, merci beaucoup, donc Monsieur Boursieux, de votre participation à cette émission. Pour les mêmes raisons, donc je vais laisser la parole à Frédéric Vial en termes de conclusion pour lui aussi.
Si j'ai bien compris, l'idée était d'essayer de convaincre Monsieur, de convaincre que le traité allait nous apporter la joie et le bonheur.
en tous les cas du côté de M. Boursieux. Malheureusement, je vais avoir une conclusion un petit peu différente en vous invitant tous et toutes à considérer que ce traité, en fait, ce projet de traité, il est presque pas un traité de commerce, c'est-à-dire que c'est l'apparence, le fait qu'il soit un traité de commerce. La réalité, c'est qu'il s'agit de la concrétisation d'une espèce de vieux rêve libéral qui serait celui d'une démocratie encadrée, d'une démocratie qu'on dirait apaisée, n'est-ce pas ? Mais dans le sens, elle est tellement apaisée parce qu'elle ne remue plus, parce qu'elle est quasiment morte. Et les véritables choix publics seraient décidés en dehors de du débat politique, du débat public. Ce seraient des personnes privées, c'est-à-dire des entreprises qui fondamentalement feraient la pluie et le beau temps. Alors, on a la conjonction de deux choses. Il y a d'un côté les dirigeants politiques qui imaginent que le libre-échange va sauver l'Union européenne de son déclin relatif actuel, ou en tous les cas la sortir de la crise. Et puis vous avez les lobbies d'affaires qui voient là, à travers cet instrument, le moyen de définitivement se mettre à l'abri de ce que la démocratie peut induire pour elle d'incertitude. Parce que les peuples ont des exigences, les peuples peuvent aussi changer d'avis, peuvent un jour décider que la privatisation c'est bon et que le lendemain ce n'est plus ça. Eh bien, il s'agit pour les entreprises de se mettre définitivement à l'abri de ça à travers des mécanismes qui se donnent des allures d'irréversibilité. Et véritablement, il s'agit de faire en sorte d'éviter que se concrétise ce vieux rêve libéral qui, en fait, est un cauchemar pour les peuples.
D'accord. Merci beaucoup, Frédéric Vial, donc d'Attac France. Merci, Monsieur Boursieux, aussi, vie fonctionnaire à la Commission européenne. Qu'est-ce que vous en pensez alors de cette société idéale telle qu'elle nous est proposée par Monsieur Boursieux, hein, pour Attac, donc Marseille?
Bien, merci. Non, c'est important d'écouter le discours de Monsieur Boursieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce langage qui est très développé, y compris chez nos politiques, de référence à un modèle qui s'imposerait. Que la croissance, le développement de l'emploi, c'est l'unique objectif que nous aurions dans la société, sans se poser la question comment on vit et comment se répartissent les produits de cette croissance.
Et quels besoins devons-nous
satisfaire ? Et à quels besoins nous devons répondre ? Alors là, non, c'est pas la question traitée par M. Boursieux, puisqu'il fait partie de la direction générale du commerce et de l'unité stratégique pour développer le commerce, point, hein, comme un objectif en soi. Alors, je voulais faire référence à deux, trois petites choses. Un, M. Boursieux dit, mais tous les accords précédents, ça n'allait pas très bien, les accords de libre-échange. Nous sommes dans un nouvel accord où nous prenons en compte les conséquences pas toujours bénéfiques des accords qui ont été traités précédemment. Revenons quand même sur ces accords. Ils étaient construits par qui et pour qui ? J'ai vu il n'y a pas très longtemps, dans le cadre de notre action de sensibilisation, mobilisation sur cette question, un film de Marie-Monique Robin qui s'appelle « Les déportés du libre-échange ». 20 ans après la conclusion des accords par Bill Clinton et les présidents du Mexique et du Canada, de cet accord appelé ALENA, on constate que l'ensemble de l'agriculture mexicaine qui produisait du maïs, des biens alimentaires, qui était en autosuffisance alimentaire, a été détruite. Plus de 4 millions de petits paysans ont été mis dehors par ces accords. Pourquoi ? Par l'envahissement des produits alimentaires permis par l'accord de libre-échange venant des exploitations américaines. Et c'était le maïs transgénique, etc., dont les prix ont été divisés par 3, par 4. Pourquoi ? Parce que subventionné par les États-Unis, d'une part, et d'autre part, parce qu'une productivité considérable dans des immenses exploitations. Que sont devenus les travailleurs mexicains de l'agriculture ? Ce sont devenus des migrants, y compris des migrants clandestins. Et leur seule issue pour survivre, c'était d'aller de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, pour travailler sur ces exploitations agricoles ou pour travailler dans des unités de transformation agroalimentaire, souvent de façon clandestine. Conséquence sur l'emploi aux États-Unis, une baisse d'un million d'emplois, alors que Bill Clinton, je vois encore son discours puisqu'il était présenté dans le cadre de ce petit film, annonçait des millions d'emplois créés aux États-Unis grâce à ce... Alors, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire, cet objectif de croissance d'emploi, toujours pour, je dirais, habiller un objectif qui est la croissance des profits des grandes sociétés multinationales qui sont à la manœuvre dans la construction de ces accords. Mon deuxième point, c'est celui-ci. C'est vrai que ces accords, on n'en a pas parlé beaucoup de leur histoire, mais ça remonte à peu près à 15 ans que des accords politiques entre les États-Unis et l'Europe sont créés et que des instances rassemblant principalement les grandes sociétés multinationales sont créées avec des rendez-vous réguliers auxquels participent y compris des politiques des gouvernements de l'Union européenne, et pour mettre en place progressivement ces accords. Ce n'est que dernièrement, au bout de 4 ou 5 étapes, qu'un rapport final, en 2007, préconisait la conclusion de cet accord de libre-échange appelé TAFTA ou Pacte transatlantique pour le commerce et l'investissement, en disant « maintenant, il faut aller plus vite ». Les lobbies des grandes sociétés multinationales s'impatientaient de voir encore ces contraintes des politiques gouvernementales empêcher le développement de leur commerce. Troisième chose, et dernière pour moi, pour l'instant, le président Obama avait misé sur le développement des accords avec États-Unis et pays asiatiques, notamment avec la Chine. Il s'est heurté à des oppositions où la Chine elle-même, dans son processus de développement, a voulu sauvegarder les intérêts de ses sociétés nationales. Et ils se sont imposés en freinant le développement de ces accords commerciaux. Du coup, le changement de stratégie. Développons des pôles occidentaux de libre-échange pour contrebalancer ce poids. Ce sont des dimensions stratégiques qui ne sont pas faites pour les peuples. Elles sont faites pour la défense des intérêts des multinationales. Donc, on est toujours dans ce même processus. Il n'y a pas d'alternative autre que, d'une part, d'informer sur ce qui se passe, et ça, on en parlera tout à l'heure, et deuxièmement, de pousser à ce que tous ces processus soient mis sur la table et que la démocratie se remette un peu en route. Voilà.
Merci à Frédéric Vial donc pour Attaque France, mais aussi à Édouard Boursieux, au fonctionnaire européen qui a accepté de nous répondre.